Alors, il dort le gros con? Il dormira encore mieux quand il aura pris ça dans la gueule. Il entendra chanter les anges, le gugus de Montauban. Je vais le renvoyer tout droit à la maison mère, au terminus des prétentieux.
Démocratie ou fascisme, république ou dictature, la France et son président ont choisi. Ainsi, l'on apprend qu'Emmanuel Macron a appelé Éric Zemmour pendant 45 minutes parce que ce dernier avait été insulté dans la rue par un homme qui a filmé et partagé la scène. De son côté, les studios d'enregistrement de la radio locale de Saint-Julien-Molin-Molette, Radio d'ici, ont été vandalisés et tagués par un groupuscule d'extrême droite néo-nazi. Le président de la République n'a pas appelé les responsables de l'association Piraillon pour leur apporter son soutien. Et malheureusement, ni l'Élysée, ni aucun soi-disant grand média n'a daigné relater cet incident, remettant en cause la liberté d'expression dans notre soi-disant démocratie. D'un côté, l'insulteur public numéro 1, condamné deux fois pour provocation à la haine raciale ou religieuse, ce marchand de haine sur CNews, la chaîne à Bolloré, qui se livre sans discontinuer à des diatribes contre les femmes, les migrants ou les musulmans. De l'autre, une radio libre et indépendante qui exprime sa différence à un public souvent confronté à une seule vérité, celle de TF1, BFM TV, France Télévisions et du journal local. Le guerrier Macron a choisi, ce sera Zemmour, tant mieux pour le CRIF et tant pis pour la liberté d'expression. Pendant ce temps-là, le fascisme court toujours, il finira bien un jour par franchir la ligne d'arrivée et là, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Au terminus des prétentieux, 925e propagande ce soir, trouve que notre président n'a pas choisi le bon camp. Gilets jaunes, réforme des retraites, gestion de la pandémie, vous ne trouvez pas que ça fait assez? Sur le 90.0 de Radio B, il faut vite s'en débarrasser. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Terminus des Prétentieux tous les jeudis de 17h15 à 18h15 ce soir pour une émission placée sous le signe de la pop et du label franco-genevois, le Pop Club Records, qui fête ses 10 ans. 10 ans de découverte, Magic and Naked, de confirmation, les Trumpets of Consciousness ou de connaissance, The Rebels of Tijuana, et de surprises comme les BO des films hautement cultissimes que sont Coup de tête et Les Tontons Flingueurs. Raison de plus pour ne pas passer sous silence le travail remarquable à défaut parfois d'être remarqué, d'une des chevilles ouvrières d'une pop que nous envient bien des régions. Et qui dit Indie French Pop Label, dit forcément mon co-animateur. Rien que le mot indé lui donne l'eau à la bouche. Je dirais plutôt les notes aux oreilles. Thibaut Labbé, les Magic and Naked, il connaît. Pierre Bachelet aussi, malheureusement, rajoutera-t-il. Est-il plus les corons qu'Emmanuel? Elle est d'ailleurs où les bronzés font du ski, marionnettiste ou la victoire en chantant autant d'histoires d'eau qu'il ne nous racontera pas. Tonio, bonsoir.
Salut Michel, salut à tous. Bon, je vois que tu connais bien ton Pierre Bachelet. Hein.
Ah oui, j'ai révisé.
Ah, t'as révisé, d'accord. Mm. Non, parce que moi, je les connais pas toutes, ces chansons. Quelques-unes, mais pas toutes.
Oui, tu connais les plus connues.
Les plus connues, ouais.
Les plus populaires, on va dire.
Voilà. Pierre Bachelet, j'écoute pas. Mais.
Tu n'as jamais écouté.
Si.
Les bronzés font du ski, par exemple.
Si, ou quand tu regardes un match de foot avec l'équipe de Lens.
Ouais, c'est les corons, ouais.
C'est les corons.
Mais comme disait Patrick Font, au nord, c'était mes corons et au sud. Ok, d'accord. J'ai rien dit.
Voilà, j'ai mis un petit peu, une petite touche footballistique.
Exactement. Il en faudra bien.
Vive la Ligue 1.
On y va ?
Allez, go.
Thank you. Mais bon, on marque pas avec ses pieds, on marque avec ses couilles.
On ne gagne pas avec sa technique. On gagne avec sa haine.
La victoire au bout du pied, et la gloire au fond des filets, l'ennemi désemparé, nous vaincrons, nous serons les premiers. Nous vaincrons, nous serons les premiers. Allez, trinquons, trinquons, trinquons. Bip, bip, bip. Trinquons, trinquons, trinquons. Bip, bip, bip. Sur le stade, les vainqueurs. Sur la balle, les meilleurs. Car à vous, c'est tout couleur. Et voilà, nous voilà, c'est votre
Le foot et le cinéma ont rarement fait bon ménage. Et pourtant, plusieurs réalisateurs s'y sont essayés avec des résultats plus ou moins probants. Rappelez-vous, à nous la victoire avec Stallone et Pelé.
Ouais, ça me dit quelque chose, mais...
Moi, je ne l'ai même pas vu.
Ça me dit quelque chose,
d'après les critiques, on avait.
D'accord.
Shaolin Soccer, pour les fans de Moine en claquette.
Le titre me dit, mais après, je n'ai pas vu non plus.
C'est pour vous dire. Bien évidemment, il y a les à côté du ballon rond. On aura d'indulgence pour Didier.
Ah oui.
Avec Chabat.
Ça, je l'ai vu, tiens. Ouais. Il y a très longtemps.
À mort l'arbitre, Jean-Pierre Mocky.
Il y a très longtemps aussi, celui-là.
Ballon d'or, l'histoire de Salif Keita, le Stéphanois.
Non, ça, ça ne dit rien.
Ou 3-0.
La finale France-Brésil, non?
Non, non, c'est un film. Ou alors Looking for Eric.
Ça me dit quelque chose, voilà. Sur Eric Cantona, mais
exactement.
Pourquoi je n'ai pas vu celui-là?
Alors, mais un film qui parle de foot, avec du foot dedans, les joueurs, les présidents, les sponsors et les dérives qui en découlent, ça ne court pas les rues. Il y a plus de 40 ans, Jean-Jacques Hano, capable du meilleur comme du pire, d'après un scénario de Francis Weber, on lui doit François Pignon et François Perrin, se plonge dans le monde du foot amateur. Je vais bien sûr parler de Jean-Jacques Hano.
Avec un ours, non?
Avec un ours, ouais. À travers l'histoire de François Perrin, le voilà, un footballeur de trinquant, un poil ressemblant avec Guingamp, équipe amateur à l'époque. Nous étions en 1979. Patrick Devers, c'est lui le fouteux, n'est pas mauvais, mais la star de son équipe ne l'aime pas. Ni son entraîneur, ni le président du club, Jean Bouise. À l'entraînement, il bouscule à la régulière la vedette de trinquant. Mal lui en pris, il se fait virer du club, du bistrot, de l'entreprise et doit quitter la ville. Accusé de viol à la place de Berthier, la fameuse vedette, il est emprisonné. Mais, et c'est là la beauté du sport, la star de l'équipe se blesse et il manque un joueur à l'équipe de trinquant pour le prochain match de Coupe de France. Ni une ni deux, François Perrin est réhabilité, reprend sa place sur le terrain, marque et permet à Trinquant de se qualifier pour le prochain tour de la Coupe. Il est alors fêté en héros et a droit aux honneurs d'une ville qu'il avait répudiée quelques semaines auparavant. Et c'est là que le talent de Patrick Devers fait de ce film, aux ambitions modestes au départ, devient un film culte. Il se venge de celles et ceux qu'il avait mis plus bas que terre et finit dans le lit de celles qu'il avait soi-disant violées. Coup de tête ne serait rien sans sa musique. Le morceau culte de ce soir signé Pierre Bachelet. On est loin des corons et des les d'ailleurs. Ça c'est sûr. Il faut dire qu'avant qu'il ne devienne un chanteur populaire, Pierre Bachelet s'était fait connaître en écrivant des bandes originales de films. La deuxième rappellera bien des souvenirs aux spectateurs des salles un peu plus qu'obscures. Souvenez-vous, le Vox à Yona et il me semble à Bourg-en-Bresse aussi.
Oui.
C'est ça, puisqu'il s'agit d'Emmanuel avec Sylvia Christel. Un an plus tard, il récidive avec Histoire d'eau, toujours dans le même genre artistique, si vous voyez ce que je veux dire. Pierre Bachelet collabore une première fois en 1976 avec Jean-Jacques Hano et met en musique les images de La Victoire en chantant. Trois ans plus tard, Coup de tête validera définitivement tout le bien qu'on pensait de lui, surtout que la même année, il écrira la musique d'un autre film culte, 1979, Patrick Lecomte, Les Bronzés font du ski.
Ah oui, excuse-moi. Oh, ouais.
Même année.
D'accord.
Donc le label Pop Club...
J'étais trop jeune.
Le label Le Pop Club Records a eu la bonne idée l'année dernière de ressortir en vinyle la BO de Coup de tête. Une bonne idée pour celles et ceux qui sont comme moi fans du film et de ses répliques et acteurs cultes que sont Patrick Devers, Jean Bouise, Michel Aumont ou Jean-Pierre Darroussin qui faisait là sa première apparition derrière une caméra. Sans oublier ce chant digne des plus grandes heures des supporters de Saint-Étienne et de Lyon réunis, si c'est possible. Pierre Bachelet nous a quittés en 2005. Patrick Jacques Devers est parti trop tôt en 1982. Des acteurs présents dans le film, eh ben, il ne restait plus grand monde, j'ai regardé. 41 ans plus tard, on ne saura jamais si Trinquant a gagné la Coupe de France. François Perrin aurait-il eu sa place? Que se serait-il passé s'il avait raté le dernier pénalty? Pour une fois, le foot et le cinéma se sont retrouvés pour une bonne cause, combattre ce monde du fric et des cons qui n'avaient pas encore gangréné le monde du sport. Et chantons tous ensemble cette chanson. La victoire au bout du pied et la gloire au fond des filets. L'ennemi désemparé, nous vaincrons, nous serons les premiers. Allez, trinquant, trinquant, trinquant.
Tu connais mieux les paroles que
but,
moi, Michel.
But, but, but.
Allez, continue, continue.
Trinquant, trinquant, trinquant. But, but, but.
Bravo, Michel.
Il est 17h, passé de quelques minutes sur les 90.0 de Radio B, ou alors Tonio.
Ou alors vous écoutez l'habituelle rediffusion du vendredi matin si vous êtes avec nous depuis 9h, ou du samedi après-midi depuis 14h.
Il est l'heure de saluer nos fidèles auditrices et auditeurs de Terminus et Prétentieux, et en particulier Alexandre, Herman, Valère, Romain, Arnaud, Vincent et Olivier, sans oublier...
Les filles.
Les filles, Gaëlle, Anne, Elodie, Pauline, Daniel, c'est pas une fille Daniel, et nos deux Patrick, bien évidemment...
C'est pas merci. Des filles non plus.
Non plus. Ce soir, une émission spéciale indie pop consacrée au label franco-genevois, le Pop Club Records. Plus d'une vingtaine d'artistes composent ce label pour une quarantaine d'albums. Leur point commun, une pop de qualité, pas toujours anglophone d'ailleurs, et comme on l'aime. Pour présenter cette structure qui fête ses 10 ans, nous aurons au téléphone Alex Cassimi, son fondateur et le leader du groupe The Rebels of Tijuana, que les spectateurs présents au Greny à Condessia en 2007 n'ont pas oublié. Pour l'instant, nous allons à la découverte de deux des combos présents sur le label Le Pop Club Records. Le premier de ces artistes a pris son envol depuis très longtemps, n'est-ce pas, Tonio ?
Effectivement, Michel. Alors, cet artiste, c'est Lauren Stewart, un Lyonnais, qui laisse aller son inspiration au fil des jours, des rencontres et des temps. Folk mélancolique, indie pop bucolique, envolée psyché, quoi qu'il arrive, l'acoustique n'est jamais loin. Les ombres de Mark Oliver Everett, Neil Hannon, Stuart Murdoch ou Elliot Smith, non plus. Formation à géométrie variable construite autour de François Serin, du groupe lyonnais déjà vu, Lauren Stewart a publié son premier album écrit, joué et enregistré en totale autarcie en 2007, donc effectivement ça date pas d'hier, The Golden State of Mind, puis un second plus sombre et introspectif en 2013, The Book of Love. En 2015, la rencontre avec les jeunes voix de The Monk Berry Monk Orchestra, dont tu nous parleras juste après, Michel, donne lieu à l'écriture d'un nouvel album, sorti en 2016 évidemment, sur le Pop Club Records.
Et nous en parlerons en fin d'émission.
Aujourd'hui, c'est un extrait de l'album de 2013, The Book of Love, que je vous propose. Voici What You Do, Lauren Stewart. Hey, what you do is new to me. Hey, what you do is new to me. See the way I clean the kitchen, turning up the sound and listen. Hey, you rather new to me. Hey, what you do is fun, you see. Hey, what you do is fun, you see. Smile away, fit the pigeon, never learn, never listen. Hey, you, what you do is free. Never tell a lie. Never ever think about the way I look at you. Never be ashamed. What you won't climb. C'était Lauren Stewart avec le morceau What You Do que l'on peut retrouver sur l'album The Book of Love, paru en 2013.
Un autre artiste, le Pop Club Records, c'est The Monkberry Moon Orchestra, dont tu parlais tout à l'heure. Groupe de musiciens réunis autour d'une passion commune, la pop. Formé en 2010 à Genève pour l'occasion par Alex Cassimi, on y retrouve une certaine Audrey Cassimi, que l'on retrouve également sur le single Girophare de tout à l'heure. Bien évidemment, The Monkberry Moon Orchestra figure dans le catalogue du label Le Pop Club Records. Il propose une rencontre entre pop sucré et soul électrique et possède une base rythmique groovy and fuzzy en y mêlant un songwriting élégant et une voix féminine, douce et onirique, quelque part entre Belle and Sebastian et les girls band des années 60. Après 3 EP, Le Combo sort un premier album en 2014, Velvet Glove, sur lequel on retrouve au cœur nos amis Sly Apollinaire et Thibault Labbé. 2 ans plus tard, c'est une rencontre qui aboutit, tu le disais, à une nouvelle galette. Lauren Stewart meets The Monkberry Moon Orchestra et une centaine de concerts dans des lieux prestigieux, dont un en première partie de Lily Wood and the Prick. C'est confiant de cette expérience en forme de balade pop que le groupe franco-genevois a sorti son 3e album Echo en 2018. Une pop-folk résolument rétro et pourtant d'une belle fraîcheur musicale, sautillante et féminine. Pas de nostalgie, non, mais l'impression d'une insouciance et d'une légèreté qui va à contre-courant de la tendance de certaines productions musicales actuelles. The Monkberry Moon Orchestra n'a pas son pareil pour tisser de petites pop-songs drôlement bien troussées, inspirées, remarquablement interprétées et surtout extrêmement rafraîchissants à l'image de Too Long, le morceau de ce soir, The Monkberry Moon Orchestra.
Sometimes I feel there is smoke in my head and I'm wondering why. I drink through the rain like the pain in my brain. You've got something to hide. Sometimes I feel lethargic in my bed and I'm asking why. It's a long winter breeze feeding all blossom trees. Are you by my side? Wouldn't it be nice if we made it together? Wouldn't it be nice to feel guilty pleasure? Only know life. I feel alone. It's way too long, too long. All in all, I sing the song. It's way too long, too long.
Too Long, The Monkberry Moon Orchestra, extrait dans leur album de 2018, Echo, une pop faussement insouciante, des mélodies affûtées et à l'esthétique impeccable, The Monkberry Moon Orchestra vous propose un voyage en machine à remonter le temps. Dans les années 60-70, ce serait un pur bonheur musical. Et nous restons chez la famille Cassimi. Après Audrey, c'est au tour d'Alexis Cassimi de prendre le micro et le téléphone. Avant de le retrouver en voix et en os, partons dans l'univers des Rebels of Tijuana, dont il est le leader et chanteur. Tonio, allons-nous au Mexique retrouver la guitare de Carlos Santana ?
Peut-être. Non.
Carlos Santana a commencé dans la ville de Tijuana.
D'accord.
C'est pour ça.
Non, mais on va rester du côté de Genève quand même.
Ah,
hein.
Bon.
Donc, rencontré autour d'une projection obscure du mythique Vanishing Point, un film d'action en mode road movie américain de 1971, The Rebels of Tijuana, groupe non pas mexicain mais franco-suisse, hein, comme tu l'as dit, basé à Genève, et on peut dire c'est le groupe fondateur du label Pop Club Records, avec notamment Alexis Cassimi.
Voilà.
Donc le groupe s'est formé en juin 2008. Les membres du groupe ont déjà fait leurs preuves au sein de formations comme Fireball ou Essang. Élégance, bon goût et dandysme nonchalant sont les maîtres mots de ce quatuor. Avec un son résolument vintage, The Rebels of Tijuana ont pour influence des groupes comme Brian Johnstone Massacre, As Dragon, Primal Scream ou Paul Weller. En 2018, le groupe a publié l'album Asile. Asile est un voyage où les influences 70s, mais également les spectres de Nino Ferrer et Graham Parsons, planent tout au long de ce disque. The Rebels of Tijuana retranscrit une pop psychédélique romantique harmonieuse à la française. A noter sur cet album que le groupe intègre deux reprises, dont Strange Effect de The Kinks et Quand j'étais chanteur de Michel Delpech. Voici un extrait de cet album, Qu'on aime taire, The Rebels of Tijuana.
Et on retrouve juste après Alex Cassimi pour l'interview de la semaine.
Aller-retour. la lumière, laisse m'étendre sur tes lèvres du silence. Je tisse notre amour. Aime-t-elle? Je viens aller-retour. Qu'on aime-t-elle? Je viens aller-retour. Qu'on aime-t-elle? Je viens aller-retour. Qu'on aime-t-elle? Je viens.
Le Rhône et la Pop ont deux ports d'attache, Genève et Lyon. Ainsi, la capitale des Gaules a vu, il y a une quinzaine d'années, fleurir une scène des plus fournies allant de Fireball FC à Essonc en passant par les Green Olives, Cellar, Scald et autres déjà vus. Sans parler de son festival dans de Lyon qui révéla bien des artistes et du label Echo Orange de notre ami Maxime Jacquard. Mais le Rhône ne se résume pas à Lyon. En amont, pas loin du lac Léman que le fleuve traverse, se trouve une scène tout aussi pop, autant francophone qu'anglophone, et que l'on a découvert à travers les Magic and Naked et les Rebels of Tijuana. Deux groupes que l'on retrouve sur le label vétrasien, le Pop Club Records, qui fête cette année ses 10 ans. Il y a 8 ans, nous accueillions dans le mag de Feu Tropique FM son fondateur, Alexis Katsimi, pour nous parler de son combo The Rebels of Tijuana. Il était question de pop, pas forcément anglophone d'ailleurs, et de musique de film, celle de Vanishing Point et de la voiture Dodge Challenger, mais pas de l'association Le Pop Club, créée officiellement le 2 mars 2011 du côté d'Annemasse, et qui permet à de nombreux groupes d'exister tout simplement. Un oubli que l'on va réparer ce soir, puisque nous avons le plaisir d'accueillir au téléphone son responsable et le leader du groupe The Rebels of Tijuana, qui chante désormais sous son patronyme le vétrasien Alexis Katsimi. Alex, bonsoir.
Bonsoir.
Lorsque je parle de pop rhodanienne, je me trompe guère, puisque entre Genève et Lyon, il n'y a pas que de l'eau qui coule, mais également de la musique.
C'est vrai qu'il y a un circuit, en tout cas, qui s'est installé.
Alors, sauf que toi, après avoir descendu le fleuve et fait partie de la scène pop lyonnaise depuis plus d'une dizaine d'années, remonter le courant et amarrer ta passion pas loin du lac de Genève, quels souvenirs gardes-tu de cette période lyonnaise ?
J'en garde de très très bons souvenirs. On est toujours connecté avec plusieurs des musiciens justement d'un peu de cette époque. Moi, j'en garde un souvenir très euphorique, euphorique. beaucoup de concerts, beaucoup de fêtes, beaucoup de choses, beaucoup de musique. Puis un lien entre les gens assez fort qui s'est construit, où finalement on s'est tous connus et retrouvés via la musique. Donc voilà, je suis toujours en contact avec pas mal de gens comme Thibaut de Trompette, Self Consciousness, ou François, Lauren Stewart, enfin plein de gens, Christian de Back to Mono, voilà, il y avait Maxime aussi, bien sûr. Non, c'est chouette, c'était une bonne période, bien puissante, avec beaucoup de création, beaucoup chose. Voilà, ça remonte un peu maintenant.
Peut-on dire que tes années lyonnaises ont correspondu à l'âge d'or de la pop lyonnaise ?
Alors, je sais pas, moi, après, je suis parti, puis c'est toujours pareil, quand on s'empare d'un terme et d'une scène, un âge d'or, en fait, c'est un phénomène un processus qu'on peut retrouver, je pense, dans plein de villes, quand il y a l'espace de 3-4 ans, il y a une sorte d'éclosion de plein de groupes qui arrivent et puis qui ont un sens commun au niveau de la musique, au niveau de l'état d'esprit, au niveau de plein de choses, et ça crée une scène, et puis souvent, il y a des choses fortes qui ressortent de ça, quand des gens arrivent à se lier et à jouer dans plein de groupes. À Genève, il s'est passé ça un peu ces dernières années, avec plein de jeunes groupes qui étaient assez forts, enfin qui le sont toujours. Et voilà, je pense qu'un âge d'or, après il y a eu plein d'autres choses, plein d'autres groupes. Des fois ça va aussi avec des lieux, il y a plein de lieux aussi de cette époque qui ont fermé. La musique était accessible finalement, on pouvait jouer dans plein de salles. À cette époque on jouait vraiment partout à Lyon, et après il y a des choses qui sont devenues moins accessibles, il y a des choses qui ont disparu, il y a des choses qui ont changé. Puis ça aussi ça joue beaucoup, c'est-à-dire qu'après les groupes partent, restent plus forcément à Lyon, et ils étaient partis à Paris après. Ça joue beaucoup, en fait, les gens et les lieux. Je pourrais pas dire assez aujourd'hui. Après, il y a une forte scène électro, il y a plein d'autres styles de musique qui ont leur grand moment aussi, je pense, par ville et notamment à Lyon, quoi.
Tu regrettes, toi, parfois, ces années pop lyonnaises ?
Je sais pas dans quel sens on peut dire que j'ai rêvé. Disons que ça a été, en tout cas, moi, le début artistique dans la musique, à jouer vraiment en groupe, à faire plein de concerts, à enregistrer des disques. Et puis, pour moi, ça a été assez fondateur. Et puis, je dirais que tout ce qui a découlé de ces années, bah, ça a été l'expérience de base. Non, après, je regrette. Bien sûr, après, j'ai une époque où j'avais 20 ans, où j'étais plus jeune. Donc, forcément, il y avait plus d'insouciance. J'étais étudiant. Bon, après, on l'a pas tous vécu de la même manière. Tout le monde n'était pas aussi étudiant à la même époque. Mais pour moi, c'est plus des années un peu de fête à Lyon. Ouais.
Tu as donc créé l'association Le Pop Club Records il y a une dizaine d'années. Quel était au départ l'objectif de cette structure ?
Alors en fait, au début, moi, j'étais pas le seul. On était plusieurs musiciens de groupes Rebels of Tijuana, Monkberry Moon Orchestra, puis aussi Green Flamingos, puis... L'idée, c'était d'avoir une structure pour qu'on puisse se produire aussi quand on enregistre, pour nos cachets. C'était un peu une structure administrative. Et puis, on voulait lui donner un côté un peu cool, vu qu'on était un peu trois groupes. Puis ça a duré quelques années. Puis du coup, on sortait nos disques. C'était vraiment un organe aussi de production. Donc et après, on a commencé à l'ouvrir à d'autres groupes avec le pressage vinyle. Où on s'est dit vraiment, on va sortir des groupes. Là, on est rentré dans autre chose, en fait, dans un vrai travail de label et de, on va dire, à 360 degrés, quoi. Connaître la communication, la production, plein de choses. Donc c'est vrai qu'après le travail associatif qu'on avait en équipe un peu fourni, plus ça avançait dans le temps, plus il s'est réduit, parce qu'on parlait d'un travail vraiment à part entière, quoi, de production de disques. Donc après, il y a des gens qui étaient un peu moins intéressés par ça, puis de fil en aiguille, je me suis retrouvé tout seul, même si à la base on était nombreux à avoir créé cette association.
Comment signe-t-on chez le Pop Club Records? Quels sont les critères pour y rentrer aujourd'hui?
Les choses, elles se sont affinées avec le temps. C'est vrai qu'au début, l'idée, c'était d'aller chercher des gens qu'on connaissait, justement un peu dans l'esprit un peu des années lyonnaises. D'ailleurs, les premiers qui sont venus dessus, ça a été un peu des Lyonnais, il y a eu des Genevois aussi, mais c'était des bons disques avec des esthétiques cool, des gens qui nous parlent. C'était surtout des gens qu'on connaissait, et c'était simplement ça. Moi, je continue toujours à aller dans cet état d'esprit, c'est-à-dire trouver un disque qui me parle en termes d'esthétique et qui va avec un élan, des visuels, avec des choses. Après, c'est vrai qu'il y a eu des fois des disques qu'on a sortis de groupes qui faisaient pas de concerts ou qui en faisaient très peu, ou certains qui se sont séparés juste derrière. Donc maintenant, on fait attention de voir un peu le côté un peu structuré, puis un peu savoir ce que le groupe veut réellement, pour pas qu'on se retrouve avec des disques qui se vendront pas, enfin, parce qu'il y a plus rien derrière. Mais en soi, moi, je reçois toujours des mails de groupes qui veulent être produits, et puis j'écoute, j'ai tendance à tout écouter et essayer de répondre un maximum aux gens. Après, on peut pas tout signer, même chez nos potes, on peut pas tout signer, même s'il y a des trucs très bien. Donc, il faut faire des choix. Ça coûte quand même de l'argent de faire un vinyle. Il faut pouvoir le défendre. Il faut pouvoir plein de choses. Donc, des fois, il y a des périodes qui sont plus propices que d'autres aussi. Il n'y a pas vraiment de règles, quoi. Mais c'est vrai que je fais très attention à l'esthétique du groupe, tant au niveau musique qu'au niveau visuel et ambiance qu'on trouve derrière un groupe, quoi.
Chanter en français n'est pas forcément un critère retenu pour signer d'ailleurs sur le Pop Club Records. Si le groupe passe de l'anglais au français, vous ne serez pas contre?
Non, c'est vrai que c'est quelque chose, ce truc d'anglais et de français qui, je me rappelle au début de Rebels of Tijuana, le fait de passer en français, ça nous avait ouvert des portes, et puis on était quelques groupes français qui se mettaient à bien tenir le français, enfin je pense à Aline ou Mustang, enfin c'est des groupes avec qui on avait joué, qui sont un peu de notre époque, quoi, qui revendiquaient bien le français, et puis c'est vrai qu'en quelques années, au-delà de ces groupes, ça s'est complètement généralisé, et puis maintenant il n'y a plus du tout de... J'ai envie de dire, il y a plus du tout de barrière, même avec d'autres langues. Moi, je serais complètement prêt à signer un groupe qui chante en espagnol ou dans n'importe quelle autre langue, pourvu que le projet il soit sexy et chouette, quoi. Donc, la langue, en tout cas, je pense que les radios ont aussi passé cette barrière. C'est plus vraiment un argument. Après, le français, on sait bien que en termes de passage radio, de choses comme ça, ça reste quand même un truc avantageux, mais pas que. Enfin, il y a la musique est aussi vraiment importante. Donc voilà, les langues, allons-y, quoi.
Par contre, le site internet du Pop Club Records est en anglais et en français pour les explications de texte des albums. Ça veut dire que votre public est avant tout anglophone?
Bah ça, c'est toujours un peu la grosse question. C'est pareil sur Bandcamp, j'ai tendance des fois à mettre les deux textes. Dans les fiches artistes sur le site, il y a français, anglais, mais c'est vrai que dans les albums, souvent je mets un peu plus français. On vend quand même plus en milieu, on va dire en milieu francophone. On favorise le français, mais on laisse quand même l'anglais assez présent. parce que c'est important en fait, parce qu'on a toujours des gens qui nous achètent des disques, que ce soit des fois aux États-Unis, Angleterre, Japon, des gens comme ça qui sont assez érudits et qui vont chercher. Donc on essaye quand même d'être au maximum référencé dans les deux, quoi.
Alors comment vit un label comme le Pop Club Record? J'imagine qu'il est impossible de vivre de sa passion.
Ah, il vit pas bien. Ça dépend ce qu'on appelle vivre bien. C'est tout un peu une réflexion de toute manière que j'ai eue, mais que plein de gens ont, je pense, sur le fait de faire des disques, de faire des vinyles. Si on était il y a 30 ans en arrière, on pourrait vraiment penser à commercialiser ça dans le but de faire de l'argent. Aujourd'hui, je pense que celui qui se lance dans une entreprise vinyle, sachant qu'on est dans des niches vraiment de style, enfin la pop, hein, c'est devenu le jazz, hein, comme c'est-à-dire qu'on parle à des personnes bien précises, et encore tous ces gens-là vont pas forcément aller acheter des disques, donc on s'adresse à des gens quand même qui ont envie d'acheter des disques. C'est plus des gens qui ont, je pense, entre 30, 50, 60 ans. Des plus jeunes, mais des plus jeunes achètent aussi, mais ça reste quand même minime, quoi. Même si le vinyle est remonté, on reste quand même dans quelque chose de bas. Donc moi, le Pop Club, disons que je le fais tenir, on va dire, par beauté du geste. Parce que si c'était vraiment une attente financière, j'aurais arrêté depuis longtemps. Il n'empêche que justement, avec ces gens qui continuent à faire acheter quand même des disques et qui continuent à s'intéresser, moi j'arrive à faire vivre la structure en touchant de l'argent des ventes et en lançant d'autres projets avec, quoi. Donc des fois, je mets un peu des petits plus de ma poche. Mais voilà, après, on a fait des BO de films, des rééditions. Ça a pas mal aidé aussi parce qu'on a touché un autre public. Et puis, au-delà du fait de faire de la BO, qui était un truc qui me tenait vraiment à cœur, je me suis rendu compte que ça faisait quand même du bien la structure pour faire aussi d'autres projets, quoi.
Justement, tu disais, depuis un peu plus d'un an est apparue une nouvelle rubrique sur le site internet du Pop Club Record. C'est donc les bandes originales de films français. French Cinema, ouais. Soundtrack, plus exactement.
Ouais, c'est que... original, hein.
Oui, en anglais encore. Et quelle idée donc de proposer des BO de films, ça trottait dans la tête depuis longtemps.
Ouais, ça, c'est depuis hyper longtemps. C'est vrai que toutes ces dernières années, il y a eu beaucoup de rééditions de musique, de films. Ça a permis vraiment de creuser, d'aller découvrir un peu des BO complètes au-delà de juste des thèmes qu'on pouvait connaître. Donc c'est vrai que ça a commencé un peu avec Gainsbourg, un peu à m'obséder, puis après à François de Roubaix, puis tous ces gens qui ont fait des BO de cinéma dans le cinéma français ou même américain. Donc vraiment en creusant. Et puis une fois, en y allant un peu comme ça, il y avait coup de tête, et puis j'avais vu qu'il y avait par éditeur en vinyle, et puis chercher l'éditeur, j'ai demandé, puis tout a joué, quoi. J'étais ok, donc on est parti comme ça. C'était assez simple, hein. C'était une demande à un éditeur, et puis l'éditeur a dit ok. Après, il y a beaucoup de choses en France qui sont bloquées par Universal dans les BO, mais il reste quand même des choses assez sympas à faire. Et puis c'est le côté réédition en général. Là, il y a les BO, mais je serais pas contre. Bah là, on fait la réédition d'un disque de Fougou. Ça, c'est la réédition d'un album qui a une quinzaine d'années. Et puis je serais pas contre d'aller chercher des plusieurs rééditions ou faire des compiles. Moi qui écoute beaucoup de musique et pas mal de vinyle, c'est aussi un travail. Il y a un peu d'archivistique assez chouette à faire, qui est un peu moins laborieux qu'un groupe, on va dire, en développement. Parce que voilà, même si c'est aussi cool de faire des choses qui sont neuves, quoi, pas faire que du vieux, quoi.
La première BO proposée n'est pas une surprise pour nous, puisque 14 ans après ton apparition sur l'album des Fireball FC au poste de numéro 6, hein, et ses vignettes genre Panini, on retrouve la musique donc de Pierre Bachelet sur le film de Jean-Jacques Hanau, Coup de tête. Le foot et Alex Cassimi, ce n'était pas une blague de musicien potage signé Édouard Bouillon, alors?
Bah, disons que lui nous a pas mal initié, hein. Je tiens quand même à lui redonner ses étoiles à Edouard. C'est-à-dire que c'est vrai que moi je connaissais pas le film, et Edouard me l'avait montré, puis lui était assez fan de ce truc de foot 70, puis il y avait un peu tout ce truc d'ambiance autour de ça, ouais, où il avait poussé la pochette. Puis moi ça m'est resté, puis la musique de Coup de tête est toujours très fan. Puis c'est vrai que c'est un film que j'ai souvent revu et que j'aime bien voir, et quand j'ai commencé vraiment à chercher, voilà, je me suis dit bah tiens, mais c'est celle-là qu'il faut commencer par, celle-là. Ça fait partie des restes de l'époque lyonnaise, ouais, effectivement. C'est une conclusion, quoi.
Pierre Bachelet et Alex Cassimi, c'est comme pour l'émission, ça a été longtemps inconcevable. C'est facile de passer outre son passé de chanteur de variété.
Disons que je pense qu'il y a plusieurs années, j'aurais jamais pu le faire. Mais oui, ça, moi qui n'aimais pas du tout, je me rappelle, mes parents avaient une cassette de Pierre Bachelet, je supportais pas ça. Et en même temps, c'est un personnage assez attachant. Puis j'avais redécouvert, effectivement, qu'il y a quelques années, qu'il faisait des BO, enfin qu'il en avait fait quelques-unes avant de devenir connu, quoi. Et oui, après, on passe au-delà, hein, mais de toute manière, les ponts entre la variété... et la pop et le jazz et tout ce qu'on veut maintenant. Enfin, pour moi, il y a plus trop de règles, donc il y avait aucun souci. Et je trouve même assez chouette que ça soit un personnage comme lui qui est un chanteur de variété dans la tête de plein de gens, qu'on allait ressortir et puis qu'on montre ce qu'il a fait aussi un peu avant, quoi.
Toi, tu passes facilement de Sheila à Pierre Bachelet, alors
hein. Je sais pas, mais en tout cas, je peux passer de Transgall au Sex Pistols facilement, ça c'est sûr. Mais non, mais voilà, après, je pense que les influences, les envies, elles évoluent avec le temps pour tout le monde. Et moi, ça a été un peu le cas. Et en tout cas, dans la musique de Coup de tête, je trouve que des choses qui me parlent. Voilà, c'est Pierre Bachelet, tant mieux, quoi.
De toute façon, dans le film de Coup de tête, tout est culte, y compris la musique.
Tout est culte, oui, y compris la musique. C'est-à-dire que la musique porte le film, en même temps, le film est incroyable, en même temps, Patrick Devers, c'est un peu Rolling Stone français, quoi. Il a ce côté-là, quoi, qui est assez top, quoi. C'est rock, quoi.
Puis les dialogues.
Puis tout. Puis c'est effectivement très français. Et puis ça fait du bien, c'est vrai aussi de. Moi, pendant longtemps, j'étais quand même très axé culture anglo-saxonne. Je le suis toujours, mais c'est vrai qu'il y a tout un côté du cinéma français qui est assez puissant, hein, quand même, en termes de musique, en termes de dialogue, de film, d'image, de tout, quoi.
La deuxième BO choisie par le Pop Club Records nous a touchés, car le film Les Tontons Flingueurs aurait pu porter le même nom que l'émission, hein, au Terminus des Prétentieux.
Ah ouais.
Hein, d'après Jean Jotner, donc s'il l'a dit, c'est que ça doit être vrai.
Ouais.
On sent que les dialogues d'Audiard sont aussi importants que les musiques de Michel Magne.
Oui, bah, disons que on a l'impression que les choses ont été faites sur mesure, hein. C'est-à-dire que Michel Magne, il est quand même très, très pointueux et très, il va vraiment dans le détail, et c'est vrai qu'il y a une sorte d'osmose entre les dialogues et sa musique. Bon, si on se plonge dans l'œuvre de Michel Magne, c'est immense, en fait. C'est gigantesque. Et il a réussi à faire des variations dans des musiques, par rapport à des scènes, par rapport à plein de choses. Enfin, on connaît trop bien les groupes de rock, leur discographie, mais c'est vrai que les musiciens, les compositeurs de musique de films comme Michel Magne, ça mériterait à creuser. Et puis, il y a encore des tonnes de choses qui n'ont jamais été rééditées. Ouais, il y a à faire, en tout cas.
Pourquoi un tel choix après Coup de tête, Les Tontons Flingueurs?
Parce que c'était une option aussi qu'on pouvait faire. C'est-à-dire qu'après, il y a eu des choses, comme je disais, qui sont un peu bloquées, auxquelles on ne peut pas toucher parce qu'il y a des contrats avec des labels, des choses voilà précises, des majors. Après, Les Tontons Flingueurs, c'était une option possible. Et du coup, on s'est, voilà, moi je me suis dit, tiens, c'est un peu, c'est 20 ans avant, Coup de tête. On est dans un répertoire bien différent. Mais allons-y, quoi, parce que cette espèce de soul jazz un peu yéyé, quoi, avec ses chœurs, ça me parle aussi, quoi. Donc, c'est vrai que du coup, j'ai écouté plein de BO, un peu, dans l'optique, un peu, de me dire, je vais les sortir. Et c'est un peu comme avec les groupes, c'est-à-dire, j'essaie vraiment de voir si elles me touchent ou pas, quoi. Alors souvent, je revois les films ou je prends un peu du temps. Des fois, j'aime pas tout d'un coup. C'est vrai qu'au début, quand j'ai entendu la musique des Tontons Flingueurs, quand je me suis dit, tiens, les Tontons Flingueurs, ah oui, mais ce petit thème, ce truc-là, je me disais, pour moi, c'était que ça. Alors qu'en fait, il y avait tout un reste de BO qui était chouette, quoi. Pourquoi pas, quoi, en fait.
Quelles sont les prochaines BO que tu aimerais proposer?
Alors, il y a deux films sur lesquels, enfin trois films sur lesquels ça devrait jouer. Il y a un autre film de Michel Magne, il y a un Saint-Jean d'hiver, une BO encore différente. Puis il y a c'est une BO de Michel Colombier. C'est un film qui s'appelle Le hasard et la violence. C'est un film un peu spécial, j'en dis pas plus. Mais voilà, on reste dans des trucs 60, 70, quoi.
Donc toi, tu as écrit ces dernières années des musiques pour des séries ou des publicités. Tu as déjà écrit des BO de films?
Non, j'ai eu des titres qui ont été pris pour des séries ou des courts-métrages ou des choses comme ça. Mais d'écrire une BO à part entière, non, ça, on me l'a jamais proposé. mais peut-être que ça viendra. Peut-être que la musique que je fais un peu plus maintenant, elle s'y prêterait plus aussi. Avant, j'étais quand même dans un format beaucoup plus, avec les Rebels, beaucoup plus rock, beaucoup plus. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu des morceaux pris, mais pas forcément une demande d'écriture, mais à voir. Mais j'aimerais bien, en fait, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire.
On parle du label le Pop Club Records. On n'a pas encore parlé d'Alex Cassimi, artiste. On connaît The Rebels of Tijuana. Donc, tu t'es lancé en parallèle dans une carrière solo sous le nom de Cassimi avec un premier album en 2015, Cookies and Moto Riders. Quelle est la différence avec ton groupe? Ça reste de la pop française à la fois cinématique et yéyé?
En fait, il n'y a pas vraiment de frontière. On va dire que c'est juste un changement de conversation. Mais en soi, déjà avec le Cookies Motorrider, je l'avais fait avec deux musiciens, mais il y avait quand même certains rebelles qui étaient venus jouer dessus. Ça, c'était un disque qui était sorti comme ça, parce que j'avais un peu de temps, puis j'avais envie de bosser un peu différemment qu'en groupe. Donc ça s'était fait comme ça. Donc, on avait hésité à un moment donné à le sortir sous le nom Rebelle, sauf Tijuana, puis finalement on sort comme ça. Et puis là, disons que l'année dernière, on avait un line-up des Rebelles of Tijuana, là, qui avait fait le disque à Ville, qui s'est un peu arrêté, parce qu'il y avait deux musiciens qui étaient bien pris avec un autre groupe, là, l'Éclair, un groupe genevois qui joue beaucoup. Et du coup, la formation s'est un peu arrêtée comme ça. Et ensuite, c'est là que j'ai décidé de refaire un disque solo, puis vraiment aller là-dessus, puis travailler ça. Puis après, je fais ça un peu tout seul, bon, avec des musiciens. Puis après, j'ai monté un groupe. Puis ce groupe, on avait toute une série de concerts qui s'est arrêté, qui s'est annulé. Mais ce groupe, voilà, on le fait un peu à géométrie variable avec d'autres gens. Et puis, on peut faire pour mon projet solo et puis pour Rebels of Tijuana. Ouais. On fait un peu pour les deux.
Tu as sorti le 14 avril 2020 le nouveau single de Cassimi, Girofard, et un clip que je qualifierais de familial puisqu'il est question d'amour. Et puis on y retrouve une certaine Audrey Cassimi, mais aussi un garçon avec un superbe short de foot vintage et une certaine ambiguïté. Tu chantes l'amour avec un grand A.
Oui, bah disons que je chante l'amour avec un grand A. C'est vrai que il y a une petite précision, c'est que dans les textes que j'utilise, enfin depuis deux ans en fait, depuis l'album Asile avec Rebels of Tijuana, je travaille avec plusieurs personnes qui font des textes, un peu des poètes qui me font des beaux textes et beaucoup autour de l'amour. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que à force de faire des textes, c'était finalement les choses que j'aimais bien chanter. Alors ça peut paraître un peu dérisoire, un peu niais, je sais pas, ça a été peut-être fait mille fois, mais en fait, c'est les choses qui me mettent à l'aise. Donc oui, Girofard, ça fait partie d'un des nombreux morceaux qui traitent de l'amour, finalement. Ouais. Et puis c'est vrai que la personne avec qui j'ai bossé pour le clip, Alex Field, a essayé vraiment de retraduire ça avec ce décalage du temps qui passe un peu, et puis le côté miroir, et voilà quoi.
Tu vas prochainement sortir sous ton patronyme Cassimi l'album Girofard, et les Rebels of Tijuana vont sortir en fin d'année, début d'année prochaine, une compilation avec des inédits et des raretés. Le confinement a-t-il changé tes plans de sortie ?
Alors le confinement a tout changé en fait, c'est-à-dire que mon disque Girofard devait sortir fin mai, et du coup la date de sortie a... On va dire qu'elle a volé en éclats. Il y avait des dates tout autour, là, une quinzaine de dates. Enfin, c'était le début, en plus. Tout ça, pareil, c'est tout annulé. Bon, après, en soi, rien de grave. Ce qui va se passer, c'est que le disque va sortir, en principe, finalement, je pense, en novembre, par là. Et d'ici là, je vais sortir un peu des clips et puis des titres du disque. Pour les concerts, on sait pas trop. J'ai une proposition pour fin avril 2021 pour un festival. Donc, je me suis dit, super, ça repart, mais dans un an. Donc voilà, on va attendre comme tout le monde, pas se stresser, c'était déjà difficile avant, donc là je pense que ça va l'être doublement. Ce qui s'est passé, c'est que là du coup j'ai fait plein de nouveaux titres, cet été je vais retourner enregistrer tout ça, faire un peu de nouveau matériel, faire une grosse session de... Donc je me suis plutôt concentré là-dessus, parce que tout l'à côté, voilà, le disque était fait, là les CD ont été faits, les vinyles sont en cours de fabrication, donc ça sortira quand ça sortira, et puis à côté, bah profiter vraiment du temps pour faire des nouvelles choses, et puis enregistrer quoi. Comme ça, après, quand ça reprendra, on aura du matériel d'avance, on va dire.
Voilà. Et quelles sont les prochaines sorties prévues, justement ?
Au niveau du Pop Club, bah, du coup, il y a tout un petit paquet de sorties qui arrivent. La prochaine véritable, en tout cas physique, ça va être la réédition du disque de Fougou que je fais avec d'autres labels. Ça sortira finalement mi-juin. Ça devait sortir début juin, mais ça s'est reporté un peu de quelques semaines. Donc ça, c'est une réédition assez chouette du disque Asphalt qui a été fait, là, qu'on fait en vinyle avec un CD de bonus et puis un livret qui va avec. Donc assez chouette. Et puis après, il y aura toute une série à la rentrée de, entre guillemets, de nouveaux groupe que je fais pas mal en coprod avec d'autres labels. C'est un système qui marche bien aussi, de se mettre à plusieurs des fois pour faire un disque. Ça fait du bien financièrement et ça fait du bien aussi en termes de réseau et pour porter les projets. Donc il y a un groupe de Toulouse qui s'appelle The Crumble Factory qui fait une pop assez indie, assez américaine, Teenage Fan Club, Weezer, ces choses-là. Donc c'est assez chouette, un truc plus à guitare. Il y a un duo lyonnais qui s'appelle Domo Como. Également, on va sortir leur album. Après, d'autres choses qui arriveront derrière, mais je les annoncerai quand on sera un peu plus avancé dans les choses. Il y a pas mal de groupes français, et puis aussi de groupes suisses. Il y a des choses qu'on travaille, voilà. Puis tout le monde est un peu dans le doute, c'est-à-dire à savoir quand est-ce qu'on sort le disque, vu qu'on peut pas faire de concert. Et tout le monde est quand même encore dans le réflexe concert pour une sortie d'album, ce qui est évidemment toujours un bon réflexe, mais ça nous met un peu à l'arrêt, quoi. Donc on hésite à savoir si on sort les disques quand même. Moi, j'avais très peur des disquaires qui, parce qu'on travaillait avec beaucoup de disquaires, par exemple en France, qui font toujours un travail incroyable. C'était déjà dur pour eux avant, et avec cette période, on s'est dit que certains, ça allait être vraiment compliqué pour qu'ils survivent. Mais ça a l'air de tenir, gentiment. Donc, on va aussi prendre un peu la température avec ces gens-là, parce que c'est vraiment aussi nos partenaires avec qui on peut bosser, puis qui peuvent nous faire exister aussi, quoi.
Eh bien, merci Alex Cassimi d'avoir accepté l'invitation de Radio B et de Terminus des Prétentieux.
Ben merci pour l'invitation, avec plaisir.
Ah ben c'était un plaisir partagé. Rappelons que tu as sorti sous ton patronyme Cassimi ton nouveau single Gyrophare, que l'on peut retrouver ainsi que toutes les autres productions sur le site www.lepopclub.com.
Voilà, super. Voilà.
On repart en musique avec justement ton nouveau single Gyrophare. Eh bien Alex, bonne continuation.
Merci, toi aussi.
Merci, bonne sortie de single, d'album et de BO. Bon concert, enfin quand il y en aura. Et puis à très bientôt sur...
Il y en aura.
Et à très bientôt sur Radio B.
Merci.
Good.
Alexis Cassimi, Girofard, le fondateur du label The Pop Club Records, qui sortira à la rentrée 2020 son nouvel album sous son nom Girofard. On reste dans l'univers Le Pop Club Records avec deux autres artistes, deux autres groupes, dont le premier, un des premiers groupes à avoir signé sur le label.
Effectivement, Michel, il s'agit de The Green Flamingos, groupe formé en 2012 et composé d'anciens de Magic Bus, de Jumping Quails et d'actuels Rebels of Tijuana. Il y a quelques temps, Johanna Claquin, la chanteuse, a chanté avec The Monkberry Moon Orchestra auprès de l'autre chanteuse, Audrey Cassimi. Les membres du Pop Club n'ont cessé de créer des labyrinthes amicaux et musicaux entre Haute-Savoie et Suisse. La musique du groupe reflète des inspirations dynamiques de folk garage, de country pop, de soul rock. Enregistré fin 2014, leur premier EP, un EP de 5 titres, est sorti en février 2015, seulement en vinyle, incluant carte de téléchargement et en édition limitée à 300 exemplaires. Le groupe a fait ce choix en raison des achats de disques physiques moins nombreux, réservant ce disque aux inconditionnels du vinyle. The Southern Oracle, le premier album du groupe, a été enregistré, mixé et masterisé dans le studio analogique Back to Mono Records à Lyon par Christian Hierot entre octobre 2016 et mars 2017 pour une sortie en novembre 2017. Et Christian Hierot, qui est aussi une figure du label.
Il enregistre souvent des groupes du label.
Tout à fait. Ouais. Aujourd'hui, c'est un extrait de l'EP de 2015 que je vous propose d'écouter. Voici The House Near the Woods. The Green Flamingos.
Get us one, my neighbor.
The House Near the Woods, The Green Flamingos, un extrait donc de leur EP de 2015.
Pour finir l'émission en beauté, eh bien, tout à l'heure nous vous parlions de la réunion de deux groupes, Lauren Stewart et puis The Monkberry Moon Orchestra. Eh bien, ça donne
Lauren Stewart meets The Monkberry Moon Orchestra.
Quelle rencontre.
En 2014, donc l'amitié entre Lauren Stewart, les Lyonnais, et The Monkberry Moon Orchestra, donc basé à Annemasse et Genève, donne naissance à un projet original, construire un album totalement inédit ensemble. Lauren écrit et compose, les Monks jouent et arrangent. Après quelques répétitions prometteuses, dévoilant des horizons pop, folk et même quelques relents country, l'histoire d'amitié continue puisque c'est finalement Renaud Ponceau, ex-déjà-vu, qui officiera à la batterie, alors que Mathieu Larue, ex-déjà-vu également, s'implique dans la prise de son et la production de l'album, dont les enregistrements se sont étalés entre octobre 2015 et mars 2016. Les deux groupes sont rejoints par Julien Garrick, que l'on retrouve dans le groupe que je vous ai présenté tout à l'heure, The Green Flamingos, et également chez les Rebels of Tijuana, et au clavier, et Robin Josserand, Strange Milk, un autre groupe du label, aux percussions. Lauren Stewart et The Monkberry Moon Orchestra financent entièrement l'enregistrement et le mixage de l'album grâce notamment à Kiss Kiss Bang Bang. Ils ont fait
un financement participatif.
Voilà, tout à fait.
Crowdfunding.
L'album est publié en novembre 2016. En voici un extrait, Dreaming On. Dreaming On, un extrait de l'album de Lauren Stewart meets The Monkberry Moon Orchestra, les deux groupes ensemble.
Voilà qui clôt avec beauté cette émission consacrée au label Le Pop Club Records. Il va être l'heure de se quitter. Tonio, bonsoir.
Michel, salut.
La semaine prochaine, il sera encore question de pop-rock psyché, puisque mois de juin oblige, hein, et nous prendrons des nouvelles de notre ami Sly Apollinaire. Et...
Ah, c'est vrai qu'il est habitué du mois de juin, oui.
Ben oui.
Eh oui, oui.
Et nous évoquerons plus longuement ces 4 P cyclo parus en 2019 et la suite de ses aventures musicales. C'est vrai qu'il nous en avait parlé lors de la 900e émission du Terminus des Prétentieux. Il n'était pas tout seul. Il était avec les Trumpets of Consciousness. On n'avait pas pu parler longuement de ces 4 EP. Donc
c'est
on mettra une petite couche la semaine prochaine. Sur ce, eh bien, rendez-vous jeudi prochain sur les 90.0 de
Radio B.
Bonsoir.
Salut à tous.
Stuts in my belly, then up to